Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour à tous et bienvenue sur l'heure des foutaises. J'ai la voix qui déraille. Je suis Patrick Béja. On couvre l'actu tech, internet et gadgets. Nous sommes en mars 2021. C'est l'épisode numéro 394 dont on m'a appris sur Twitter aujourd'hui que c'était à partir de cet épisode qu'on dépasse NipTech comme étant le podcast tech avec, je crois, le plus d'épisodes de la scène des podcasts natifs. Et j'avoue que je suis extrêmement fier de cet achievement, d'autant plus que je n'ai pas fait ça seul. On a fait ça avec tous les patriotes qui nous aident à être là, à durer et à continuer. Je nomme aujourd'hui Cliff Lambert, Guanda Papa, Hongi Barros, Derf, Oiseau Python, Eddie Pinson et le producteur Stéphane Lioret qui nous rejoint dans l'équipe de production de l'émission. Merci à vous tous de soutenir l'émission sur Patreon. C'est vous qui permettez à cette émission de continuer, d'exister. Et c'est vrai que dans le monde des podcasts, c'est pas évident que des podcasts continuent longtemps. Et c'est grâce à vous, grâce aux auditeurs qui financent que c'est possible. Généralement, on va dire un podcast dure, allez quoi, 2, 3, 4 ans. Alors ceux qui font un petit peu plus que ça, et nous, ça fait 12 ans maintenant, et ben, on continue à vous détailler l'actu tech. Et ben, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Je suis donc Patrick Béja et je suis avec deux formidables invités pour cet épisode. À ma droite ou ma gauche, il y a Cédric Ingrand, que vous connaissez bien, qui est là régulièrement avec nous. Comment ça va, Cédric ?
Salut Patrick, moi je suis content d'être là à plein d'égards. Alors, 300, c'est quoi, numéro 394 ? Bon, d'abord, j'ai énormément d'admiration parce que de fait, le podcast, c'est quand même un marathon, hein, c'est pas un sprint. Et alors c'est là, sûr. On est au-delà du marathon, on est dans l'ultra-marathon. Et je suis un peu triste parce que si mes calculs sont bons, je serais pas là pour la 400e. Ce qui me rend fort triste. Oh, je sais pas ce que tu comptes faire pour la 400e. Enfin, en même temps, il ne tient qu'à toi. Mais je veux dire.
Je sais pas, j'ai pas fait les calculs.
Le backstage de ça, c'est qu'on se parle toutes les 4 semaines.
J'ai pas fait le calcul encore, mais il est pas impossible que je sois pas là pour la 400e aussi en fonction de la.
Comment ça
du moment où mon deuxième enfant va naître.
Ah, écoute, non, attends, excuse-moi. Il faut que tu aies des priorités dans la vie. Donc, voilà. Il faut que tu aies une conversation sérieuse avec madame ce soir. Bon, elle arrive à un moment où je suis pas sûr qu'elle soit prête à tout entendre en même temps.
je lui demande de tenir encore un petit peu. 6 semaines, non, ça va être dur, non, ça va être compliqué. Normalement, c'est prévu début avril et donc on aura quelques épisodes où je serai en congé paternité. Là encore, vous savez que je parle beaucoup des patriotes, mais là encore, c'est grâce à vous que ça peut se faire. Je serai en congé paternité parce qu'on n'a plus 18 ans dans la cave de nos parents pour faire des podcasts et du Twitch et du YouTube.
Donc c'est les patriotes qui vont voter pour le prénom de cet enfant, en fait, c'est ça ?
Presque.
Ah bon ?
Ils auront le choix entre un prénom et le même prénom qu'on aura choisi. Voilà, on saura. Et puis la 400e, c'est pas tellement important, c'est la 500e qui sera la plus importante.
Mais non, la 400e, c'est vachement important, parce qu'avec deux enfants, c'est fini, c'est terminé.
Ouais, il n'y aura pas de 500e.
Tu vas repasser à un rythme mensuel que tu feras d'une voix blanche
au bout de ta vie. Je m'y attends. Merci pour cet enthousiasme, Cédric. On a également qui participe à l'émission pour la première fois, Aya Ndiaye. Comment vas-tu, Awa ? J'ai dit Aya, quelle honte. Awa, comment vas-tu ? Qui nous vient notamment du podcast Tech à Tête. Comment ça va ? Es-tu en forme ?
Écoute, ça va et toi ? Je pense que je vais faire comme Cédric, je vais m'auto-inviter pour la 400e. je demande pas ton avis.
Non, mais ouais, j'ai trouvé la solution. En fait, la 400e, on va la faire ensemble.
Ouais, clairement.
Et Patrick vient s'il veut. Tu vois, comme ça, on reste assez flexible pour s'accommoder de sa nouvelle vie.
Je précise qu'il y aura quand même des épisodes pendant que je ne serai pas là, pendant que je serai en congé paternité. Ça ne sera pas moi, encore que j'en prépare certains. Enfin, je vous prépare des trucs. Mais il y aura quand même des épisodes. Donc, si vous voulez être là pour la 400e, vous pourrez, hein, tout à fait. Mais même si vous estimez que la qualité des podcasts ne suit pas quand je ne suis pas là, vous pouvez toujours aller écouter Tête à Tech, par exemple, là, au hasard.
Bien sûr.
Un très bon podcast de qualité.
Ah ouais, est-ce que tu peux nous dire quelques mots sur toi, sur ce que tu fais pour que les gens qui te découvrent sachent te placer un petit peu?
Ouais, avec plaisir. Donc moi, je touche un peu à tout dans la tech. Comme tu le dis, Patrick, je co-anime Tête à Tech. On est à deux. On est très loin derrière. Je pense qu'on a 72 épisodes. Ça fait 3 ans qu'on existe.
C'est pas mal. Hein.
Ouais, ça se prend bien déjà.
Ouais, on te regarde un peu de loin en se disant peut-être qu'un jour, on verra bien. et à côté, je milite, on va dire, dans la tech pour plus de diversité avec Diversity Days et Acoba Fest. Et puis ensuite, je fais un coucou quand même aux copains du Mouton Numérique, qui est aussi une super asso dans laquelle je suis et qui travaille aussi sur une tech plus technocritique et moins, technosolutionnisme, on va dire.
Eh bien, écoute, je pense que tu vas avoir des avis extrêmement intéressants sur tout ce dont on va parler aujourd'hui, parce qu'il y a des sujets, des gros sujets. On va notamment reparler, comme la semaine dernière, des NFT, mais aussi de Twitter, de ce que Jack Dorsey est en train de faire avec Square notamment, et de la vente de son premier tweet qui a déjà atteint, je crois, 2,5 millions de dollars en NFT. On va également parler de FLOC, le Federated Learning of Cohorts, qui est la nouvelle solution de Google pour la publicité protectrice, selon eux, de la vie privée. On va voir de quoi il en retourne. Et puis, on a aussi des rumeurs Apple, un petit peu de politique, un petit peu de produits, un petit peu de modération. Enfin, plein de sujets hyper intéressants. Je vous garantis que vous allez être absolument passionnés. Et pour le premier sujet, donc comme je le disais, si vous n'avez pas écouté l'épisode précédent, allez écouter au moins le moment où on parle des NFT, des Non-Fungible Tokens, parce qu'on est rentré dans les détails, et on a expliqué de quoi il s'agit, comment ça fonctionne, à quoi ça peut servir, et ça continue à faire pas mal de bruit, et pour une bonne raison, donc on va continuer à en parler évidemment. Je vais résumer pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, donc vraiment en 30 secondes. Les NFT sont un élément de blockchain, de la technologie blockchain, qui permettent d'attribuer la propriété d'une œuvre qui est associée au token, au jeton en question, et de la graver dans la blockchain, de manière à ce qu'on puisse savoir à qui appartient quelque chose. C'est pas forcément un objet numérique, hein. ça peut être utilisé pour traquer de manière fiable, puisque c'est gravé dans la blockchain, la propriété d'objets physiques également, mais ça peut aussi servir pour des objets numériques, et on parle de n'importe quel objet numérique, comme par exemple le tout premier tweet de Jack Dorsey. Vous connaissez peut-être ce tweet, il l'a fait en 2006 et c'est assez célèbre. Il dit « Just setting up my Twitter ». C'est le tout premier tweet en fait du réseau, et c'était TWTTR, comme c'était le cas à l'époque, le nom du réseau Twitter, et il l'a mis en vente sur une plateforme de vente avec NFT, donc avec Non-Fungible Tokens, qui s'appelle Valuables. Et aujourd'hui, l'enchère la plus haute est de 2,5 millions de dollars pour l'achat de ce tweet. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, l'achat de ce tweet? Vous êtes peut-être un petit peu circonspect, parce que les NFT qui servent à acheter des objets numériques, qu'est-ce que ça veut dire d'acheter un objet numérique? Eh bien, en fait, ça dépend de la manière dont le NFT est utilisé. On m'a beaucoup posé la question cette semaine, est-ce que ça veut dire qu'on a les droits sur l'objet en question? On parlait la semaine dernière de vendre des épisodes du Rendez-vous Tech, par exemple. Combien d'euros, de douzaines de centimes d'euros seriez-vous prêt à mettre dans la possession d'un épisode du Rendez-vous Tech? Eh bien, ça dépend en fait des règles qu'on y attribue. Si moi je décide, si vous achetez écouté le tout premier épisode du Rendez-vous Tech, vous avez le droit de le supprimer, enfin je le supprimerai des flux, vous en avez totalement la propriété, vous pouvez en faire ce que vous voulez, c'est possible, on peut utiliser les NFT de cette manière, mais on peut aussi dire simplement, et c'est le cas dans la plupart des ventes qui ont lieu aujourd'hui, y compris celle du tweet de Jack Dorsey, c'est simplement que vous en avez la possession sur le papier, mais vous ne pouvez rien en faire, vous ne pouvez pas décider ce qui se passe. En gros, c'est un petit peu un autographe, c'est un petit peu un certificat qu'il vous appartient, mais bon, vous ne pouvez rien en faire, il reste public, il reste utilisable par Twitter, etc. Et je pense que beaucoup de gens disent « Ah, mais ça ne sert à rien, ça n'a pas de valeur ». Je pense que ces gens se trompent un petit peu, que ça a une certaine valeur dans un monde où tout est duplicable à l'infini. L'idée même de se dire qu'on a la propriété de quelque chose, même s'il reste public, je crois que ça a une certaine valeur. Enfin, clairement, des gens qui payent 2,5 millions de dollars pour le premier tweet de Jack Dorsey, ça montre qu'au moins certains estiment que ça vaut quelque chose. Et les collectionneurs savent de quoi il s'agit. Il y a beaucoup de gens, même si c'est des objets physiques, quand on achète des choses ou quand on se fait des collections, c'est plus pour le plaisir de savoir qu'on possède la collection. Il y a plein de gens qui achètent plein de choses et qui ne les utilisent pas vraiment. Je vais continuer avec ces sujets parce qu'il y a d'autres sujets liés. On ne va pas partir entièrement sur les NFT, mais...
juste un truc sur le NFT, parce que pour l'instant, ce qu'on en voit est assez... Bon, ok, j'ai envie de dire ça débute, mais c'est à la fois quelque chose de nouveau et de très vieux, en fait, parce que c'est une vieille promesse. Moi, ce que j'espère, c'est que tout ça se développe au point de régler enfin le problème des microtransactions, par exemple, qui est un truc qu'on n'a pas réussi à régler depuis, 25 ans. C'est-à-dire juste la capacité, par exemple, de te vendre de manière simple, sans que tu aies besoin de sortir ta carte bancaire, de faire une double authentification, etc. Je sais pas, je veux te vendre un article quand tu vas sur le site du Parisien. Si ça pouvait être 20 centimes, ce serait 20 centimes. Ok, super. Il faudrait qu'il y ait un truc en un clic, peut-être deux, pour arriver à le payer de manière simple. Et là, on va arriver à un système... je pense qu'il va y avoir une convergence entre ça d'un côté... Et puis, ce que les experts appellent les CBDC, les monnaies numériques de banque centrale. En clair, par exemple, même la Banque Centrale Européenne, va tester dans pas très longtemps son euro numérique. Bah, une fois que ton porte-monnaie d'euro numérique pourra communiquer de manière transparente avec, par exemple, ton compte bancaire, tu pourras faire des micros. Tu vois ce que je veux dire? Et tout à coup, je crois que c'est... l'accès ou la propriété sera largement simplifié. Alors évidemment, ce qu'on voit pour l'instant sur... tu vois, je sais pas, des DJ qui mettent aux enchères un MP3 et tout, c'est super. Mais c'est intéressant parce que ça permet en plus de réfléchir, tu l'as dit, à la différence, mais à la convergence aussi entre la propriété d'une chose et son accès. C'est pas parce que quelque chose est d'accès libre que personne n'en est propriétaire. Et ça va permettre aussi à des artistes de gagner leur vie, ce qui est quand même pas mal. Mais c'est ce qui est fou, c'est de voir à quel point tout ça a pris 25 ans, en fait.
Vas-y, Awa, pardon.
Non, ce que j'allais dire, c'est que justement, les NFT, ça fait quelques temps que les artistes s'amusent à vendre des œuvres sur le sujet, notamment sur toute la partie musique, ou alors sur tous les artistes qui faisaient de l'art génératif, vendaient déjà, en fait, leur production en ligne pour quelques bitcoins, non, pas du tout, quelques centimes de bitcoin et quelques centimes d'Ethereum. Et en fait, c'est juste que Jack, ça y est, ça a touché le mainstream, quoi. Et je pense que ce qui fait réagir énormément sur cette partie-là, c'est le montant, c'est surtout la somme, en fait, qui fait réagir.
Bah, je crois qu'il y a effectivement
c'est de l'auto-marketing par l'acheteur. L'acheteur, il a eu sa propre crypto-monnaie à promouvoir, etc. Donc, pour lui, c'est une dépense marketing. C'est un truc pour arriver à se mettre en avant, même si 2,5 millions, c'est quand même du vrai argent. Mais moi, j'aurais préféré acheter la barbe de Jack Dorsey. Mais
celle-là, je pense qu'elle est... le jour où elle partira pour bien plus de 2,5 millions. Elle est majestueuse. Elle est un petit peu moche, je trouve. Mais... je suis pas convaincu que ça change la donne pour les microtransactions parce que c'est quand même des opérations qui sont à inscrire sur des blockchains. C'est pas des choses aussi anodines que on pourrait imaginer pour des articles à 20 centimes ou ce genre de choses. Et effectivement, il y a toujours eu de la vente d'objets numériques, mais là, c'est de la propriété vraiment. C'est pas juste d'acheter un exemplaire d'un MP3 ou d'un comme on pourrait acheter un jeu sur une plateforme de vente de jeux. C'est vraiment, on a la possession de cet originale, en quelque sorte. Et justement, c'est intéressant ce que vous dites tous les deux par rapport à l'autre événement dans ce domaine, c'est le fait que Square, donc la société de paiement de Jack Dorsey, a racheté Tidal, la société de streaming de musique de Jay-Z, qui donc est une société de streaming de musique comme on en connaît plusieurs, qui n'a pas le succès fou que connaît depuis des années Spotify ou même les gros du marché comme Apple ou Google, mais qui existe depuis un moment et qui est déjà en place. Et on peut se demander pourquoi est-ce que Square, une société de paiement, rachèterait un service de streaming de musique. Mais quand on fait le lien avec un petit peu ce que vous dites tous les deux, Cédric, pour les microtransactions d'une certaine manière, donc le paiement, la rémunération des artistes, et toi aussi, Awa, avec la vente de MP3, eh ben, on peut imaginer qu'il y a tout un écosystème à développer pour que les artistes puissent se faire rémunérer en vendant non plus juste des droits à Spotify ou d'autres pour être payés quelques centimes d'euros à chaque stream, ce qui va rester présent, hein. C'est pas que ça va disparaître, mais qu'ils peuvent en plus monétiser une sorte de fandom en vendant des choses comme bah oui les premières éditions limitées avec numérotées et signatures de l'artiste ou ce genre de choses avec des NFT qui permettent d'identifier ça et de d'authentifier la propriété de ces choses-là de manière complètement fiable. Est-ce que c'est un truc que vous imaginez qui puisse se développer? C'est comme ça qu'on analyse la plupart des gens.
Ouais.
Je vais donner la parole à Awa parce que Cédric, on ne l'arrête plus.
Moi, tant qu'il y a des, piles, je continue. Donc, oui.
Tu connais un peu le domaine, donc c'est quelque chose qui pourrait fonctionner.
Bah, en fait, pour moi, le fait que Jack se tourne vers Tidal, c'est pas du tout anodin. Et en fait, quand on regarde toutes les entreprises que Jack a pu monter jusqu'à présent, ont un socle commun, c'est qu'il essaye toujours de résoudre des problèmes de distribution. Enfin, dans Twitter, il essayait de mettre en relation des journalistes, des personnes avec une audience. Dans Square, il essayait de faciliter l'accès aux services numériques, aux services financiers, pardon. Et là, en fait, c'est ce qu'il va faire avec Tidal, c'est de dire, bah, en fait, on va faciliter la distribution d'un contenu, bah, là, qui va être de la musique, vers une audience en coupant un peu bah, ce que font toutes les plateformes de streaming, en fait, en coupant le middleman, en fait, entre qui étaient les labels avant.
Ça, c'est déjà possible sur Spotify. On n'est pas obligé de passer par un label. Pour moi, ce qui est intéressant avec Square et Tidal et les NFT, c'est qu'ils pourraient offrir aux artistes, en plus de ça qui existe déjà, le fait de vendre d'autres choses à leurs fans et ces objets uniques, quoi, ces objets de collection. Puisqu'il s'intéresse énormément aux NFT, Jack Dorsey. Moi, c'est ça que je vois comme... plan machiavélique. Et ça serait effectivement la distribution de choses qui viennent des artistes vers les fans. Mais à mon avis, ce n'est pas juste la musique. C'est...
Non, ouais, je pense qu'il y a aussi pas mal de produits financiers qu'il va aussi essayer d'apporter à, à tous ces artistes, en fait, qui aujourd'hui n'ont pas grand-chose.
C'est ça. Ils ont aujourd'hui que Spotify ou même Tidal ou les autres à qui parler pour vendre la musique qu'ils ont fait en tant que stream. Et là, ils se positionnent un petit peu dans les chaussures de Patreon qui offrent tout un tas de services aux créateurs, mais spécifiquement designés pour les artistes dans la musique. Moi, je crois que c'est quelque chose qui pourrait fonctionner. Cédric, tu avais autre chose à ajouter ?
Non, pas sur le dossier des artistes, mais on est clairement dans la désintermédiation. Moi, j'ai entendu quelqu'un, un podcasteur et prof d'économie d'ailleurs, qui lui avait un conseil pour Jack Dorsey. Il dit en fait, Twitter, parce que là, Jack Dorsey a fait racheter Tidal au travers de Square et pas de Twitter, ce qui est curieux d'ailleurs, parce qu'en fait, on resterait quand même dans le média, la distribution, etc. Bon, alors que Twitter pourrait parfaitement utiliser Square pour les micro-paiements, mais passons. Et ce prof d'économie, Scott Galloway, lui disait, mais en fait, c'est pas ça qu'il devrait racheter. Ce qu'il devrait racheter, c'est CNN. Parce qu'en fait, Twitter est un truc dont l'audience et l'activité évoluent autour de l'actualité et dont la valorisation dépasse largement celle de CNN. Alors, on peut discuter de savoir est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, etc. Mais c'est vrai que ça remet les idées à l'endroit sur l'importance relative, en tout cas dans des termes financiers, de ces entreprises-là.
Bon, il y a d'autres choses qui sont liées à cette mouvance. Je ne sais pas si vous regardez des YouTubers qui commencent à parler de trucs comme Nebula. Je ne sais pas si vous connaissez Nebula, mais il y a d'autres choses de ce type-là. Nebula Floatplane, c'est Floatplane, je crois. C'est en fait des regroupements de YouTubers qui sont en train de construire leur propre plateforme en partenariat avec des grosses infrastructures, mais qui sont en train de construire leur propre plateforme pour diffuser du contenu tel qu'ils l'entendent, de manière un petit peu plus, sur laquelle ils ont plus le contrôle qu'avec YouTube. Et c'est marrant parce que c'est la première fois que je vois les gros YouTubers qui, du coup, ont des moyens financiers un petit peu plus importants que les petits créateurs dont je parlais tout à l'heure, qui font ça dans la chambre de la maison familiale et donc qui n'ont pas beaucoup de frais. Mais il y a des gros créateurs, on parle de, je ne sais pas moi, Linus Sebastian, ce genre de gens, ce genre de personnes, qui font des choses de ce type-là et qui construisent leur propre plateforme. Et il y a aussi un autre événement, je raccroche un petit peu des choses qui sont plus ou moins reliées, mais on entend beaucoup parler de Twitch dans les médias français ces derniers temps, encore plus qu'avant, notamment avec la chaîne de Samuel Etienne qui a reçu hier François Hollande. Il y avait 77 000 spectateurs à 23h, nous rapporte Chloé Wattier, notre amie, et c'était la plus grosse audience d'une chaîne dans le monde à ce moment-là précis. Et du coup, étant donné que c'est quelqu'un d'un petit peu connu dans les médias qui s'intéresse à Twitch, j'ai l'impression que tous les médias s'intéressent à Twitch aujourd'hui en France et découvrent un peu Twitch, même si certains y sont déjà un petit peu présents. Et moi, je demandais un petit peu malicieusement combien de temps avant que la presse française ne demande une part des revenus d'Amazon pour financer la presse, à votre avis, puisque maintenant, ils découvrent qu'il y a ce genre de choses. Bon, je plaisantais à moitié, enfin, peut-être à moitié, mais...
Non, enfin, je pense que c'est... Je pense et je crois et j'espère que c'est hors sujet, mais tout comme la presse française ne demande pas une quote-part des revenus publicitaires des chaînes de télé, par exemple.
Non, non, bien sûr, je plaisantais. Oublions cette boutade. Mais ce que je trouve intéressant, c'est qu'il y a, j'ai l'impression, une sorte de d'ébullition, d'effervescence dans le milieu de la création et de toutes les formes de création, y compris presque du journalisme, en fait, si on relie ça à Twitch et YouTube, et qui a été un petit peu ouverte par Patreon, mais qui pourrait permettre à toutes ces formes de travail de diversifier un petit peu leur activité. Et je me demande si ce n'est pas le début de quelque chose. Vous savez que dans l'émission, j'aime bien essayer de vous parler de ce qu'on peut commencer à sentir dans l'industrie tech qui influencera dans les mois ou les années à venir le reste de la société. Je me demande si là, il n'y a pas quelque chose à noter. Mais bon.
Je pense surtout que c'est la continuation d'un mouvement assez constant vers le payant, en fait. Mmh. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des choses pour lesquelles le modèle publicitaire peut avoir des limites. Et c'est ce que les YouTubeurs ont constaté sur YouTube, parce qu'en fait, ils sont quand même face à des taux de rémunération qui sont en baisse. Enfin, c'est un peu compliqué, mais c'est pas, ils ont aussi d'autres sources de revenus. Donc tout ça peut être mis à plat. Mais, mais évidemment, c'est nettement plus facile... Ne serait-ce que de planifier un peu ce qui va se passer devant toi dans l'année à venir, si tu dis bah voilà, aujourd'hui j'ai X milliers d'abonnés, ils payent tant, enfin tu vois, tout à coup t'es face à un revenu récurrent que tu peux planifier dans le temps, enfin c'est autre chose.
C'est dire,
bon, alors tiens, sur cette vidéo là ils ont passé qu'une pub et alors celle là elle a été démonétisée, enfin tu vois,
sur les plateformes en question, effectivement c'est des plateformes qui fonctionnent avec abonnement, avec des prix beaucoup plus faibles évidemment que des choses comme Netflix, on est dans une poignée d'euros, mais c'est des plateformes avec abonnement. Et effectivement sur YouTube les publicités ne rémunèrent pas les grosses chaînes, même si sur les grosses ça représente des sommes importantes. Les publicités, généralement, d'après ce que je sais, ça représente que 20-30% des revenus, même des grosses chaînes. Donc, ça ne suffirait pas à les faire fonctionner telles qu'elles fonctionnent, quoi.
Et en plus de cette question de revenus que peuvent apporter YouTube et les pubs dessus, je pense qu'il y a aussi le problème de l'incompréhension que la plupart des créateurs, notamment les YouTubeurs, ont par rapport à YouTube. Il y a très souvent des cas où des très gros créateurs sont en conflit direct et extrêmement public avec YouTube en disant « on ne comprend pas vos décisions, on ne sait pas pourquoi on a été démotisé, on ne sait pas pourquoi notre chaîne vient se faire ban. Mmh. Et bah, quand c'est la seule source de revenus et qu'on ne comprend absolument pas comment les décisions sont prises sur ce qui vous permet de vivre, en fait, ça devient tout à fait logique de se dire bon, bah, en fait, j'ai besoin d'autre chose de plus constant, de plus stable et que je peux maîtriser. Mmh. Face à YouTube qui décide tout seul dans son coin, en fait.
Complètement. Moi, je suis pas un gros YouTuber, mais j'ai une petite chaîne YouTube. Et même, on voit très bien quand on rentre dans l'engrenage qu'on comprend rien à la manière dont ça fonctionne. Pas à la manière dont fonctionne YouTube, mais à la manière dont l'algorithme va décider que tel ou tel truc fonctionne, que tel... Bon, c'est assez obscur, donc je comprends la frustration de ces YouTubers. Si on dépend entièrement de ça pour ses revenus, c'est pas évident. Parlons des FLOC, les Federated Learning of Cohorts. Là encore, c'est un sujet dont je pense que vous allez entendre parler dans quelques temps, et peut-être que vous avez déjà entendu parler, mais vous ne savez pas exactement de quoi il s'agit. C'est la réponse de Google à la menace de démantèlement des cookies de tierces parties. Et la manière dont ça fonctionne, c'est que réexpliquons les cookies très, très, très rapidement. Les cookies, c'est des petits fichiers qui sont posés sur votre ordinateur quand vous naviguez sur un site Internet et qui va garder des informations sur vous auxquelles vont pouvoir accéder les différents sites web que vous visitez. Et donc, c'est très dangereux pour la vie privée, enfin dangereux, en tout cas, ça révèle des informations privées à tous les sites potentiellement que vous visitez. Il y a une grosse mouvance anti-cookies, spécifiquement tierce partie. Donc, c'est des cookies qui ne sont pas posés par le site que vous visitez spécifiquement, mais les cookies auxquels peuvent accéder tous les sites. C'est, par exemple, si vous visitez au hasard... lemonde.fr, le monde a besoin de cookies pour fonctionner, bien sûr, pour une question technique pour le site web. Mais un cookie du monde normal, ça sera un cookie du monde. Un cookie tierce partie, ça serait un cookie de, je dis au hasard, Le Figaro, auquel le monde peut accéder. Généralement, c'est plutôt des agences de pub, des sociétés publicité, des Google, des Facebook, ce genre de choses. Et donc, les cookies tierce partie auxquels tout le monde peut accéder sont sous le feu des projecteurs et sous le feu de la législation. En tout cas, ça sent le roussi. Donc, Google essaye de faire quelque chose de différent. Et ce quelque chose de différent, ça s'appelle le FLOC, Federated Learning of Cohorts. En gros, c'est floc, c'est une nuée, c'est comment on appelle ça ? Des oiseaux.
Une nuée d'oiseaux,
c'est ça. Et la manière dont ça fonctionne, au départ, je me disais « Ah, bah c'est des trucs qui sont fédérés par des groupes de plusieurs milliers d'internautes, c'est pas identifiant personnellement, donc c'est pas si mal. » Et puis, j'ai lu l'article que je mettrai dans la newsletter de l'IFF, l'Electronic Frontier Foundation, qui se bat pour la vie privée et depuis très longtemps sur Internet, et qui sont quand même, ils sont généralement assez remontés, donc il faut prendre ce qu'ils disent souvent avec un tout petit grain de sel, mais il n'empêche, ce qu'ils disent sur le fonctionnement est assez factuel et assez quand même inquiétant. En gros, ce qu'ils disent, c'est les cookies, c'était pas bien, et Flock, c'est pas bien non plus. Ne buvez pas le Kool-Aid que vous vend Google, c'est pas du tout une solution qui est protectrice de votre vie privée. En gros, la manière dont ça fonctionne, c'est que le navigateur que vous utilisez, qui sera compatible avec Flock, créera un profil sur vous, en fonction des sites que vous visitez. Toutes les semaines, il mettra à jour ce profil. Et il vous associera à un groupe de personnes qui ont un profil similaire et ne partagera avec les sites web que vous visitez que ce groupe, ce Flock, cette nuée. Et le groupe devrait avoir, en théorie, au minimum, quelques milliers de personnes. Et donc, il n'y aura effectivement pas d'informations individuelles sur vous, très personnelles, qui vous identifieront. Il y aura simplement un groupe de comportements auquel vous appartenez, qui sera identifié sur les sites web que vous visitez. Alors, en théorie, c'est mieux que ce qui se passe avec les cookies. Et je pense que concrètement, effectivement, on est dans une situation où c'est mieux que les cookies. Mais ce qu'il pointe du doigt, il y a plusieurs choses qu'il mentionne, c'est que les groupes en question, en fait, c'est des groupes comportementaux, sociaux, peut-être ethniques, peut-être très identifiables, en fait. De la même manière qu'on peut micro-targeter sur Facebook ou sur Google ou sur d'autres, on peut micro-targeter avec ces choses-là aussi. Et si on est dans ce type de logique, on va avoir des démographies socioculturelles qui vont être identifiées. Et quand on a quelques milliers de personnes, c'est pas énorme à l'échelle du monde entier, parce que c'est de ça qu'on parle. Si on a un groupe qui représente quelques milliers de personnes, c'est très, très, très précis. Et en plus de ça, on a, en plus de ces flocs, donc de cette identité du groupe-là, qui peut être associée à votre identifiant si vous vous connectez sur un site web, c'est-à-dire que si vous avez un site web sur lequel vous vous connectez avec votre identité unique, que ça soit votre compte sur, puisqu'on parlait du Monde, Le Monde par exemple, mais bien sûr tous les sites qui utilisent Google, vous avez été identifié uniquement, vous avez été associé à ce floc-là auquel vous êtes associé, et du coup, il devient très, très simple d'avoir un début beaucoup plus précis, ou en tout cas très précis, pour commencer à vous identifier individuellement. Alors, peut-être que ça donne un petit peu plus de pouvoir à ceux qui ont ce type de grosse audience et qui ont du contenu sur leur plateforme à eux, ce qu'on appelle le contenu first party. Et donc, ça donne plus de pouvoir aux informations que peuvent avoir sur vous ces gros sites par rapport à la jungle que c'était jusqu'à maintenant, où tout le monde pouvait avoir accès à tout. Et ça, c'est peut-être un avantage pour ces gros sites qui auront un petit peu plus d'indépendance par rapport à Google. Mais il n'empêche, c'est pas du tout une solution idéale comme on a. Et la raison pour laquelle j'en parle, c'est que j'ai lu beaucoup de rapports sur le sujet. Et vous me connaissez, hein, moi je suis pas ni pour ni contre. J'essaye de voir les choses vraiment de manière aussi objective que possible. Et j'ai lu beaucoup de rapports sur le sujet, sur l'analyse des flocs, qui était quand même assez copié-collé de ce que dit Google, quoi. J'ai pas vu beaucoup de personnes dans les cercles tech même qui allaient regarder exactement comment ça fonctionnait et ce que ça voulait dire. Et quand on regarde effectivement comment ça fonctionne, on se doute bien qu'il y a un loup, on fait pas trop confiance à Google sur la question de la pub, qu'ils vont bien devoir faire un truc qui va les avantager à eux. Mais quand on voit comment ça fonctionne, on se rend compte que, oui, ça donne une identification qui est quasiment aussi dangereuse, voire par certains aspects de fingerprinting encore plus dangereuse que celle qu'on avait avant, ou en tout cas aussi dangereuse que celle qu'on avait avant. Donc bon, je ne sais pas si vous voulez vous exprimer. Ouais, t'es pas d'accord, Cédric. Vas-y, on va se fighter.
Pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Mais non, parce que tu l'as dit très bien. Le problème, c'est le fingerprinting, c'est-à-dire arriver à t'identifier toi, avec toutes les conséquences plus ou moins casse-pieds. Qu'on a vu jusque-là. Tu vois, ça va de tu as cherché un truc sur un site d'e-commerce et tout à coup, le truc que tu as cherché, tu le vois apparaître en pub sur tous les sites que tu visites derrière. Ça, on appelle ça le retargeting. Alors ça, de fait, pour des annonceurs, c'est un truc qui a une énorme valeur parce que tout à coup, on sait ce que le truc que tu veux acheter à cet instant précis. Bon, bref, donc évidemment, on ne va pas te lâcher, mais c'est intenable sur le long terme. Enfin, je veux dire, c'est tellement... Surtout quand on te retargete toujours alors que tu as déjà acheté le truc. Donc, c'est genre, lâchez-moi la grappe, c'est bon, je l'ai acheté, la chaise, ça va. Il y a deux aspects à ça. Un, je pense qu'ils se sont aperçus que, de fait, on peut affiner jusqu'à l'extrême, jusqu'à l'infini quasiment, ton profil publicitaire. Tu vois dire, donc Patrick, c'est un homme... Il est français, il a plus de 40 ans.
Il est beau, il est intelligent, il est sympathique.
En tout cas, il a l'air de lire des trucs.
Il est objectif, apparemment.
Ouais, mais complètement. Merci.
Il a dû faire des études parce qu'il lit des articles avec des mots de plus de 3 syllabes. Enfin, tout ça, bon. Et puis, apparemment, il a un intérêt pour le jeu vidéo, la technologie, que sais-je, les relations internationales, la politique et le reste. Bon, très bien. Mais le truc, c'est qu'en fait, au-delà du retargeting, c'est-à-dire de l'annonceur qui dit « Non, moi, j'ai envie de pouvoir suivre jusqu'au bout du monde le type qui allait chercher une fois un truc sur mon site », l'annonceur moyen, tu vois, je ne sais pas, la société d'assurance, la compagnie du gaz, la marque de voiture, etc., ça, dans l'ensemble, elle s'en fout. Elle, ce dont elle a besoin, c'est d'ailleurs ce qu'on utilise en pub un peu partout ailleurs, avec des bonheurs divers, c'est justement d'avoir un profil général, c'est de savoir que tu es un homme de 40 ans et machin, oui. Et peut-être que tu dois avoir, on en déduit, un niveau de revenu qui doit être en gros de X, etc., etc., et que donc tu rentres dans leur cible. Ils n'ont pas
ouais,
forcément
là...
besoin de savoir que, tu vois, de... ils n'ont pas, ils ont pas besoin de savoir que
d'accord.
C'est toi.
Je suis d'accord, complètement, mais quand on parle, bon, un homme de 40 ans, intelligent, beau, etc., il y en a quand même pas mal en France, tu vois, qui correspondent à...
Non, non, et puis il a dû faire des recherches en ligne, donc on sait qu'il va avoir probablement un enfant dans pas longtemps, tout ça, il y a quand même des infos
ouais,
qui sont,
mais c'est
qui
ça,
sont monétisables.
Non, mais c'est ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, c'est pas juste une catégorie socio-professionnelle CSP+. Si on parle de nuée de floc de quelques milliers de personnes... C'est beaucoup, beaucoup plus précis que juste, Patrick, il doit avoir, j'allais dire, il doit avoir 15 000 euros aujourd'hui à claquer parce qu'il est CSS++. Non, il a un enfant, donc en fait, il a besoin de 15 000 euros en plus pour survivre. Mais, mais c'est beaucoup plus précis que ça. Donc, je ne sais pas si on peut...
J'ai tendance à penser que c'est un, s'il fallait trouver une analogie, c'est un peu un profil qui s'arrête, tu vois, presque au seuil de ta maison en disant, bon, il habite là, ok, il a une maison, c'est là, je vois qu'il y a une voiture là, d'accord, il y a une poussette devant le truc, ok.
C'est ça.
Tu vois, tu situes
les gens.
Est-ce
que le seuil de la maison, ce n'est pas déjà trop proche?
Merci, à voir.
C'est ça le souci aussi. Peut-être qu'en fait, l'échelle qu'il faudrait, c'est l'échelle de ta ville. Et encore, la ville, c'est encore beaucoup trop proche.
C'est compliqué parce que
la
ville, ça veut plus rien dire.
Les gens qui sont tellement différents, ça veut plus
c'est
rien
dire.
Bah ouais,
enfin, si, la localisation, ne serait-ce que pour te servir une pub dans la bonne langue.
Oui, c'est aussi ça le souci, quoi. C'est que en face de ces flocs, c'est toujours la même question qui se pose de protection et de respect de la vie privée. Moi, la première question que j'ai à chaque fois, c'est toujours l'intentionnalité de Google. Pourquoi maintenant? Pourquoi aujourd'hui?
Alors justement, c'était la deuxième partie de mon exposé. non, c'est pas ça. C'est
qu'en
fait, ils sont aperçus d'un truc, c'est que pour leurs annonceurs, avoir en gros le profil de Patrick, hein, c'est pas très payant. Avoir le profil de 3000 personnes comme Patrick, ça, c'est pas mal. Et surtout, ça arrive à un moment où ils ont compris que le curseur était allé trop loin, en fait. Ouais. Et que, un, ça n'avait pas d'intérêt énorme en termes de business, et que, deux, on avait dépassé les limites de l'acceptabilité, et il le voit avec ce qui est en train d'arriver à Facebook, qui, lui, se débat dans des trucs où ils en viennent à dire « Oui, non, mais nous, on est là pour protéger les PME. » Pardon
ouais,
mais Marc, mais qu'est-ce que tu dis? Mais tu es à peine humain.
Et c'est un peu les bons derniers sur le sujet, quand même, Google. Enfin, je veux dire, Mozilla a commencé à le faire l'année dernière ou celle d'avant. Ils se font tout le temps taper sur les doigts. Enfin, là, le Conseil d'État vient de valider l'amende de 100 millions d'euros que la CNIL avait mis à Google. Je veux dire, ils ne le font pas non plus parce qu'ils sont...
C'est clair.
Je projette.
Ils le font
mais
dans leur
je
intérêt.
Pense qu'on fait... Exactement. Enfin, la pub, ça reste quand même 80% du chiffre d'affaires d'Alphabet, la maison mère.
Bien sûr.
Donc,
tout à fait.
S'ils font ça, ils ne se tirent clairement pas une balle dans le pied, c'est sûr. Mais je pense qu'on n'a peut-être pas encore assez de recul pour vraiment voir ce que ça donne.
Bah, ce qui est en fait un petit peu inquiétant, c'est qu'on peut utiliser effectivement ça pour te vendre une machine à laver, ok, très bien, mais on peut aussi voir, comme ça a été utilisé sur Facebook, avec ce type de... Si on s'arrête à la porte de ta maison, comme tu le disais, Cédric, effectivement, on peut l'utiliser
plutôt
aussi...
Plutôt que d'aller fouiller dans tes tiroirs, tu vois.
Voilà, mais c'est quand même, tu vois, on sait beaucoup de choses à la porte de ta maison et on peut cibler pour des buts un petit peu moins louables aussi que de te vendre une machine à laver.
Je te mets à l'aise, hein, toutes les infos. La porte de la maison n'était pas une analogie que je t'ai sortie par hasard parce qu'en France, en tout cas, par exemple, nos postiers sont payés pour remplir des fiches sur les gens qui déménagent, en disant « bah ouais, tiens, telle maison, ok, il doit y avoir tant de personnes dedans, il y a une voiture, il y a machin, il y a tout ça ». Donc c'est des infos qui sont déjà utilisées dans d'autres profils. Moi, j'ai lu ce que disait l'IFF et c'est intéressant. Ce qu'il explique en gros, c'est que ok, tu vas avoir des cohortes de plusieurs milliers de personnes. Le problème, c'est quand des sites, des annonceurs, etc. vont pouvoir essayer de croiser ça avec des infos plus précises qu'elles ont sur ton compte.
Le fameux fingerprinting,
oui.
Ouais,
oui.
Voilà, c'est ça. Et alors là, ils sont rapprochés de Google et Google dit oui, ça c'est vrai que c'est un challenge, on ne s'est pas encore réglé, on a un plan sur la privacy, etc. etc. Mais il dit, il faut qu'on arrive à... Ça fait partie des choses qu'il faut qu'on arrive à résoudre parce que sinon, ça veut dire qu'on peut, que n'importe... Enfin, pas n'importe qui, mais tu l'as dit, surtout des grandes plateformes pourraient déjouer les plans de Google là-dessus.
Je te, Je vous lis la citation spécifique de Google. « We realize this means other providers may offer a level of user identity for ad tracking across the web that we will not. » Nous réalisons que d'autres fournisseurs de services pourraient vous proposer un niveau d'identification pour la publicité que nous n'offrons pas. Et comme des graphes de personnel identifiable information basés sur
commence par un F et le logo est bleu. Hein.
Voilà, oui. Ce genre de choses. Mais pas que. N'importe qui a un truc qui vous identifie à travers d'autres sites, comme votre adresse email, par exemple, si vous utilisez la même, eh ben, ça y est, c'est bon, c'est terminé. Il vous identifie, il commence à construire un profil sur vous et c'est terminé. Vous avez le niveau d'identification. Je vais quand même. Je pense qu'on a
avec
fait
un détail quand même. Tout ça se passe sur le background du RGPD, c'est-à-dire que c'est ce qui... Et on l'a vu, regarde ce qui s'est passé sur WhatsApp, d'un coup on a dit aux gens, oui alors on vous rappelle, WhatsApp appartient à Facebook et donc Facebook va pouvoir croiser quelques informations et puis ouvrir WhatsApp aux entreprises, machin. Bon, ça n'allait pas plus loin, tes conversations sont toujours chiffrées, etc. Et t'as vu le tsunami de « Ah, au secours, que se passe-t-il » c'était de la surréaction parce que Facebook a été nul dans son explication, mais quand même, on arrive à un moment, ce que je disais sur l'acceptabilité, où les gens... D'abord, ils en ont marre à chaque fois qu'ils ouvrent une page web de dire oui, je veux pas ça. Ah, qu'est-ce que c'est que ça, l'intérêt légitime ? C'est quoi cette nouveauté ? Ah bon, alors donc il faut que je décoche 18 options avant d'aller lire un article. Soit. et ne serait-ce qu'arriver à mettre fin à la gabegie qu'il y a eu pendant très longtemps sur les cookies tiers qui se déclaraient à personne, etc., c'est quand même un grand, grand pas pour l'humanité.
Bon, je vais juste dire un petit truc et puis laisser Awa conclure sur ce sujet. Je vais me faire un tout petit peu l'avocat du diable quand même, dans le sens de Cédric. Et donc, je fais mon jingle, c'est comment ? L'avocat du diable, c'est Patrick. Et donc, il y a quand même cet aspect de la publicité qu'on a tendance à démoniser. Et comme on en a parlé à plusieurs reprises dans l'émission, il faut faire attention avec l'idée de trop démoniser la publicité parce qu'elle est quand même extrêmement utile et elle paye des services qui sont ensuite disponibles sans avoir à payer en plus. Et dans un monde où la publicité disparaîtrait complètement, il ne reste que de l'information de qualité accessible en payant. Et donc, seuls ceux qui ont les moyens de payer ont accès. Bon, je donne l'exemple de l'information, mais ce n'est pas forcément que ça. L'information est extrêmement importante dans ce domaine parce que c'est le cœur des débats sur les fake news. Et donc, l'information de qualité est importante. Donc, la publicité a, je crois, malgré toutes mes objections exprimées à cette histoire de Flock, la publicité a aussi sa place pour permettre d'avoir une rémunération potable pour une information qui est offerte, entre guillemets, gratuitement. Donc ça, c'est une chose à ne pas perdre de vue dans ces discussions. Et peut-être que les flocs sont un juste milieu ou qu'il faut aller un petit peu plus dans une autre direction que celle que prend Google. Mais c'est important à garder à l'esprit. Si tu veux conclure, je te laisse la parole. Ouais.
Ouais, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire parce que je trouve ça hyper intéressant. Juste avant, on parlait de cette idée que les gens étaient prêts à payer pour avoir accès à du contenu exclusif et du contenu de qualité. Donc, si on fait un pas en arrière sur la publicité pour donner un peu plus d'accès, pour dire que les gens en fait sont prêts à payer pour avoir accès à du contenu, en fait, j'ai envie de dire, c'est pas plus grave. Ça a l'air d'être le mouvement, en tout cas, vers lequel on va. On le voit notamment avec l'essor des newsletters payantes. Et ensuite, cette idée de se dire, on va couper l'accès à toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de payer pour y avoir accès. Enfin, c'est déjà un peu le cas, j'ai envie de dire. On paye de nos vies privées, en fait. On paye peut-être pas de façon monétaire, financière, mais on paye quelque chose. Et on paye le fait que, peut-être que aujourd'hui, ils s'arrêtent au pas de notre porte, mais peut-être que demain, on se dira tant pis, ils ouvrent nos tiroirs et puis, tant pis quoi. Enfin,
non, mais c'est ça le problème. C'est que si on retire la possibilité de payer avec notre vie privée, pour schématiser effectivement ce qu'est la publicité, si on retire cette possibilité et si on dit aux gens maintenant, la seule information, un tout petit peu de qualité qui existe, il faut ouvrir le portefeuille pour. Il y aura plein de gens qui pourront pas le faire, qui pourront peut-être le faire sur une source et des gens qui pourront pas le faire. Et c'est tout le cœur du débat sur les fake news et la manipulation des gens avec des informations de qualité plus que discutables. Et du coup, l'idée d'avoir la pub qui permet d'avoir accès à ces choses-là en payant un peu avec notre vie privée, c'est quelque chose qu'il serait dangereux de retirer complètement. Comme on le dit dans la chatroom, il faut faire la différence entre la pub et le traçage. Et je crois que peut-être qu'il y a un équilibre à trouver entre pub et traçage pour tracer moins, mais avoir de la pub quand même. Peut-être que c'est là la réponse. Mais pour répondre à ce que tu disais, Awa, c'est ça le problème. Si on n'a plus la possibilité de payer avec notre vie privée, on ne pourra payer qu'avec notre argent. Et je ne sais pas si ce scénario de société est vraiment souhaitable si on va à cet extrême.
Bah, je ne sais pas, parce qu'aujourd'hui, les extrêmes, on les a atteints. C'est-à-dire que, effectivement, la nuance entre pub et traçage, mais aujourd'hui, quand on regarde les conséquences de Facebook sur la démocratie, j'ai envie de dire, on le paye déjà à ce prix.
Non, mais c'est exactement la question. Mais c'est ça la question. Non, mais c'est ça la question. C'est ça la question. Le problème de Facebook, c'est exactement le cœur de ce débat. Le problème de Facebook, c'est que Facebook met à disposition, et Facebook est le web, hein, on parle de Facebook spécifiquement, mais Facebook met à disposition du monde entier une information qui peut être de faible qualité, voire de mauvaise qualité, voire des fake news gratuitement. Et ceux-là, ils ne vont pas disparaître. Ils ne vont pas partir. Ils sont là pour rester. Donc, si on fait en sorte que les sites qui offrent de l'information de qualité ne peuvent plus le faire en utilisant de la pub pour se financer, ils vont tous passer à un modèle payant et il ne restera de gratuit que la publicité, que l'information de mauvaise qualité et le genre de trucs qu'on voit sur Facebook. C'est ça le danger. Et donc, c'est pour ça qu'on a encore besoin d'une publicité qui fonctionne. En tout cas, c'est l'idée dont on parle ici.
Surtout, ce qui se passe avec Flock, c'est que tout à coup, Facebook, qui pensait avoir, tu vois, un peu Google à ses côtés dans cette histoire, en disant, voilà, on est deux immenses plateformes qui vivons toutes les deux de la publicité, bah, là, il regarde à côté de lui, il n'y a plus personne. Et de l'autre côté de la rue, il y a Google qui est à côté d'Apple en disant, non, mais chérie, toi, tu te débrouilles. Hein. Moi, je joue plus de ton côté de la rue, quoi. Et je pense qu'ils vont avoir... Le réveil va être un peu difficile, d'autant que quand on fait la longue litanie de ce qu'ils ont fait de travers, c'est terrifiant.
Bon, on va avancer. Je veux répondre à deux choses qu'on dit dans la chatroom. D'une part, on nous dit payer, toujours payer. C'est vrai qu'on a dit payer beaucoup. Mais les enfants, je comprends que ça ne soit pas super sympathique de payer tout le temps. Mais si vous trouvez des journalistes qui font du travail de qualité gratuitement, je vous montrerai un monde où on peut tout avoir sans payer. Je crois que malheureusement, le travail de qualité n'existe pas sans rémunération. Et si vous pensez qu'on pourrait le faire, je vous encourage à aller voir votre employeur demain et lui dire que vous pouvez travailler sans salaire, que finalement, en fait, c'est pas la peine. Donc ça, c'est la première chose. L'autre chose, c'est la question qu'on nous pose, c'est est-ce qu'il serait possible d'avoir de la publicité sans traçage ? Malheureusement, je ne crois pas. Surtout, alors quand on achète un magazine de jeux vidéo, par exemple, on sait plus ou moins qu'une personne qui achète un magazine de jeux vidéo va être intéressée par les jeux vidéo et le type d'intérêt qu'il ou elle va avoir. C'est beaucoup plus compliqué quand on est sur le web avec des sites énormes. Alors oui, on pourrait se dire, si quelqu'un va sur... par exemple, on va encore prendre l'exemple du Monde. Quelqu'un qui va voir le site du Monde, s'il n'y a aucune information sur la personne qui y va, on va avoir du mal à lui proposer un produit qui l'intéresse. On va juste avoir, vous savez, le nombre de choses qui peuvent exister dans le monde et qu'on veut vendre. Ça va être difficile. Alors, on peut baser ça uniquement sur la page que la personne va visiter. Mais je vous assure que ça ne sera pas assez précis pour donner quelque chose qui résultera dans un acte de visite ou d'achat. Et donc, la publicité n'aura plus de valeur. Donc, sans traçage, c'est compliqué. Moi, je crois qu'il faut trouver le bon équilibre pour le bon traçage. Et ça, c'est un débat qu'on n'a pas, on n'est pas prêt de résoudre, quoi. On est en train de partir dans les questions de revenus de vie dans la chatroom, ce qui est très intéressant, on en parlera peut-être un jour, pas dans cette émission. Mais je vous propose de parler de la manière dont moi je vis pour une petite seconde. Vous voyez cette transition absolument incroyable.
Revenons aux vraies questions.
Professionnelles.
La manière dont moi je vis, c'est avec Patreon. Avec Patreon, je peux financer ce travail que je fais pour construire le rendez-vous tech chaque semaine, pour essayer de comprendre les enjeux et les sujets que je vous expose, pour avoir des intervenants de qualité incroyable qui vous aident à comprendre tout ça chaque semaine. Et tout ça, ça se passe grâce au financement des auditeurs qui vont sur patreon.com/rdvtech et qui vont décider de donner, ah, pas grand-chose, hein. Vous pouvez donner 1 euro, 2 euros pour un épisode, c'est le prix d'un café, le prix d'un croissant, pour avoir l'épisode dans vos oreilles toutes les semaines. Si vous appréciez la manière dont se passent les émissions, et si vous passez un bon moment, si vous rigolez un petit peu, et si vous apprenez quelque chose, peut-être que ça serait approprié pour vous de vous dire bah, je vais aller voir sur patreon.com/rdvtech et regarder si ça pourrait être sympa. Je dis regardez si ça pourrait être sympa parce que ça correspond aussi à des bonus que vous allez avoir, comme par exemple le fait d'avoir les time codes pour passer d'un moment de l'émission à l'autre s'il y a des sujets qui vous intéressent moins. Vous n'allez pas avoir les pubs du tout. On parle de pubs justement pour que l'émission soit accessible sans payer. Mais si vous ne l'appréciez pas, bah vous avez le choix. Vous pouvez décider de financer un petit peu et d'avoir les émissions sans pub et sans même cette partie, ce petit laïus que je fais au milieu de l'émission. Et plein d'autres petits bonus que je vous laisse découvrir sur patreon.com/rdvtech. Le lien est dans les notes de l'émission aussi. Vous pouvez le faire directement depuis votre mobile ou depuis votre téléphone ou quand vous rentrez chez vous ou quand vous êtes chez vous. Vous pouvez aller sur patreon.com/rdvtech pour regarder si ça vous intéresse. patreon.com/rdvtech. Merci, merci du fond du cœur à tous les patriotes qui soutiennent l'émission. Je vous fais de gros bisous. Enfin, en même temps, je dis ça, mais ils ne vont pas entendre cette partie parce qu'ils ont l'émission sans pub et sans segment Patreon au milieu. Donc, bon, mais je vous fais des bisous. Vous le sentez dans l'éther qui se diffuse jusqu'à vous depuis la Finlande.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bon, on a fait très long sur ces sujets qui étaient passionnants, mais on a maintenant d'autres petits sujets à couvrir aussi. Comme par exemple, allez, une petite dose de rumeur Apple, on aurait un keynote qui dévoilerait enfin les AirTags, vous savez, ces petits jetons qui permettraient de les géolocaliser très facilement. Ce keynote arriverait le 23 mars et ils ont ajouté chez Apple une protection contre le fait justement de suivre à la trace des personnes qu'on ne devrait pas pouvoir suivre à la trace, c'est-à-dire que ils ont mis dans leur système de localisation un moyen de tracer un jeton, un AirTag, qui serait près de vous trop souvent et qui ne vous appartient pas. Donc, s'il émet le petit signal, vous allez pouvoir l'identifier. Il va vous signaler « Eh, mais il y a un jeton là, il y a un AirTag dans votre sac, j'ai l'impression qu'il ne devrait pas être là. » Ceci dit, question intéressante. Est-ce que les utilisateurs Android en bénéficieront ? C'est-à-dire que si on met un jeton dans le sac de quelqu'un qui a un téléphone Apple, bah ça va, il va être prévenu. Mais si on met un jeton dans la poche de manteau de quelqu'un qui a un téléphone Android, on va pouvoir les tracer.
Ouais, bon. Enfin, ça, comme tu le fais aujourd'hui avec un Tile, avec tout ce qui existe déjà en la matière. Hein, c'est une vraie question parce que tout ça existe depuis tellement longtemps. Moi, je pensais qu'ils étaient déjà passés à autre chose. Mais non, clairement, non, il va y avoir des AirTags, ok. C'est pareil, ouais, mais... un AirTag normal et un AirTag pro, évidemment, c'est normal.
Ah oui, il y a des pros aussi, j'avais pas vu. Mais, mais je dirais que c'est pas la même échelle. Quand Apple se met à faire un truc, c'est pas les mêmes responsabilités. Et d'ailleurs, il serait, d'après Min-Chi Kuo, en train de travailler pour leur casque de réalité mixé pour mi-2022, bon ça on savait déjà plus ou moins, casque de réalité augmentée en 2025, et, alors là on rentre un peu dans la science-fiction, à un système de lentilles de contact connecté avec écran pour 2030 à 2040. Alors on est un peu flou, hein, on est un peu vague, mais...
2030 à 2040, non mais vous n'êtes pas sérieux quoi,
2030 écoute c'est Min-Chi Kuo, c'est pas moi.
Oui, mais c'est pour sortir en même temps que la voiture volante.
C'est ça, exactement. Dans les années 2000...
Tu prends zéro risque à dire absolument n'importe quoi. Et moi, je veux
bien
que... De
toute façon, on ne s'en souviendra pas en 2040, donc ils peuvent très bien nous le promettre.
Ça, 2040, enfin... ça existe, hein, je veux dire, dans les labos de recherche, mais là, de recherche plus pure et dure, il y a des trucs où tu projettes en disant, voilà, on va suivre l'évolution d'une technologie et construire avec pendant 10, 20, 30 ans. Moi, je me souviens, dans les labos d'Intel, par exemple, j'avais vu des gens qui travaillaient sur... comment créer une matière intelligente à base de nanorobots. Tu vois, le truc passionnant. C'est donc évidemment la démo qu'il te faisait, le nanorobot, il faisait quand même la taille d'un sucre encore, donc on n'était pas encore au nanorobot. Et tu disais, mais attendez, c'est un peu brouillon votre histoire. Oui, non, mais attendez, revenez dans 25 ans. Ah d'accord, ok, là je comprends. Mais quand on parle d'un produit qui va arriver dans 20 ans, enfin non, mais...
Soyez après, Apple surfe énormément sur la hype. Enfin, c'est comme ça aussi que leur business model fonctionne, quoi. C'est par anticipation, on est hyper hype et puis ensuite on voit ce qui arrive, si ça... on se dit bon, c'est déjà pas mal.
Je suis pas sûr que ça c'est des informations dont ils voudraient qu'elles soient publiques. Eux, ils sortent sur la hype des trucs qu'ils annoncent au moment où ils les annoncent. Ils sortent pas sur la hype des rumeurs Apple, donc je suis pas sûr que ça soit le genre
ou alors à très court terme, ou alors dans des cas très précis, quand ils vont annoncer des choses qu'ils n'ont pas déjà en magasin. C'est-à-dire qu'en gros, quand pré-annoncer quelque chose va rien leur coûter en vente et va juste potentiellement peut-être coûter un peu à la concurrence. Mais là, si tu veux, personne se dit « Ah, ils vont sortir des lunettes de VR en 2040, vite, il faut que j'achète des actions !» Enfin, je veux bien qu'on soit tous en train de planifier notre retraite, mais c'est un peu loin encore.
Bon, je vois que vous avez été déçus par cette histoire-là. Parlons un petit peu de Elon Musk et de Starlink. Je voulais le mentionner parce que, alors, il y a un groupe de députés, la France Insoumise spécifiquement, qui veut faire voter un amendement pour interdire Starlink en France. C'est basé sur... C'est basé sur tout un tas de spéculations plus ou moins justifiées sur la question de l'astronomie amateur, la question de l'encombrement de l'espace dont on a déjà parlé à plusieurs reprises. Moi, j'ai l'impression que ce n'est pas forcément la priorité dans ce genre de combat sur la technologie. Mais je me suis dit que j'allais en parler parce qu'on a eu, suite à la mention de Starlink quand ils ont eu l'autorisation d'émettre en France, tout un tas de témoignages d'auditeurs. On disait en fait, je crois que c'était avec Julien Cadeau, je ne me souviens plus, qui disait « Oui, mais c'est un cas très, très, très niche quand même, Starlink, on est bien connecté en France. » J'ai eu plein d'auditeurs, alors c'est empirique, hein, c'est anecdotique peut-être, mais plein d'auditeurs qui m'ont contacté en me disant « Non, mais les Parisiens, là, vous vous rendez pas compte. Oui. Starlink, ouais, c'est une... Alors, ils n'ont pas dit « C'est une révolution », mais ils disent « Mais on l'attend comme le Messie, nous, parce que ça nous changerait la vie. » Et donc, je voulais remettre un petit peu dans le contexte ce genre de discussion. Ça peut être une vraie avancée au niveau de la connexion Internet, qui est évidemment essentielle pour certains en France, d'après les auditeurs qui m'ont contacté, en tout cas.
Pour tout dire, moi, Vas-y.
Vas-y, Awa.
Non, c'est ce que j'allais dire, c'est que les deux sujets s'entendent, en fait. D'un côté, les gens qui attendent d'avoir accès à Internet et que le plan THD prend je ne sais pas combien de temps pour avoir accès à la fibre et tout ce qui va avec... qu'on leur dise que d'un côté on s'inquiète des débris dans l'espace et de la pollution lumineuse, je pense que c'est un peu, il y a un peu une difficulté à l'entendre. Mais de l'autre côté, c'est légitime de se dire, mais en fait, lorsqu'il n'y aura que des débris autour de la Terre et qu'on ne pourra plus rien envoyer dans l'espace, ça sera trop tard pour se poser la question.
C'est une problématique qui est clairement, enfin qui existe réellement. On demande dans la chatroom, mais l'espace c'est pas infini. Le problème c'est tous ces satellites sont en très basse orbite et il y en a des milliers qui sont prévus, des dizaines de milliers. Et du coup, il y a une vraie préoccupation sur les impacts entre objets à cette orbite, la pollution lumineuse qui est un petit peu, d'après ce que j'ai compris des experts, c'est un petit peu surfait cette préoccupation. En réalité, ça n'a pas un énorme impact et ils travaillent en plus dessus. Mais il y a effectivement ces questions qui se posent. Moi, j'ai l'impression que les préoccupations, la manière dont l'approche la France Insoumise, ça m'a l'air d'être un petit peu plus par opportunisme parce que c'est un sujet tech, mais comme le font souvent les politiques de tous bords, hein, mais peut-être que je me trompe. Peut-être qu'ils ont vraiment une préoccupation
là-dessus. Je suis pas sûr qu'ils aient chopé tous les tenants et aboutissants de l'histoire. Moi, pour tout dire, ça y est, je me suis inscrit chez Starlink, pas pour moi, parce que j'habite en région parisienne et j'ai de la fibre pas chère qui fonctionne, mais pour ma maman qui est au bord de la mer en Bretagne. Alors, elle a une jolie vue, mais ça se paye en termes de débit ADSL. Ouais. Et pourtant, elle est en pleine Télécom Valley, comme on dit. Mais on lui dit, non, mais la fibre, c'est pas pour tout de suite, parce qu'en fait, on fibre d'abord, et c'est normal. Les villages qui étaient déjà les moins bien desservis par la DSL, c'est-à-dire que t'imagines des gens qui ont encore 1 méga, 2 mégas d'ADSL, enfin, l'horreur. Et à qui, de fait, quand tu leur dis « mais ça sert à rien de mettre des satellites », là, eux, évidemment, ils sont tout vert, rouge, jaune, en te disant « non mais chérie, tu ne sais pas quel est le problème réel ». Alors, il faut le dire quand même, il y a d'autres offres. Hein. Du coup, j'ai creusé un peu, parce qu'on n'a pas encore les vrais prix. Est-ce que vraiment, ce sera 99$ par mois, ce qui fait un peu cher pour un Français ? Mais il y a Nordnet qui fait des offres par satellite. Alors là, sur les trucs plus connus, par Eutelsat, bon.
Oui, mais la latence n'est pas la même et le débit n'est pas le même.
Oui, je sais. Ouais. Mais ça, c'est parce que toi, tu as des problèmes de gamer, je te rassure. Ma maman n'a pas de problème de gamer. Ma maman, elle voudrait juste arriver à parler tous les jours avec ses petits-enfants sur Google Meet. Tu vois ce que je veux dire? Et là, que ton lag, ce soit 20 millisecondes plutôt que 8.
Enfin, 200, c'est pas la fin.
Voilà, c'est ça.
Du coup, par contre, Starlink, c'est pas un overkill pour l'usage qu'elle peut avoir?
Oui, mais comment dire, qui peut le plus peut le moins.
Mais donc, pourquoi elle n'a pas déjà Nordnet et ce genre de choses?
J'avoue qu'on ne s'était pas posé la question.
Tu vois quand on creuse, Cédric.
Non, mais c'est aussi parce que voilà, c'était son anniversaire. Et en plus, comme ça, je sais que quand moi, j'irai, parce que pour tout dire...
Toi, tu pourras jouer sur ta PlayStation.
Pour tout dire, en aval de son ADSL souffreteux, elle a une installation réseau de la mort qui tue. Alors elle pourrait faire des LAN parties quasiment avec ce que je lui ai installé. Mais c'est aussi parce que du coup, quand moi j'irai voir ma maman, quand je pourrai retourner enfin aller voir ma maman de près, au moins on se battra pas au moment où elle regardera, The Crown sur Netflix. Moi, je pourrais regarder autre chose.
Je te confirme que à mon avis, les offres satellites existantes, c'est pas les mêmes. Hein. Les satellites sont beaucoup plus loin, il y a une latence qui est accrue et les débits qui sont accrus et les prix qui ne sont pas les mêmes. Enfin, clairement, Starlink change la donne là-dessus, quoi. Mais bon, bref.
Oh ouais, bien sûr. Mais et encore, ça ne peut que s'améliorer. Ils sont déjà... Ils expliquent que maintenant, ceux qui sont en bêta vont avoir 200 mégabits et que ça va continuer à monter. Honnêtement, 200 mégabits, c'est bon, hein, Elon. C'est bon. Moi, ça me va. Hein, on n'a pas besoin de beaucoup plus. C'est un nouveau réseau, c'est un nouveau truc. Et comme chaque nouveauté, ça entraîne un petit peu de panique morale. Il faut juste s'habituer à ce genre de choses.
Ah ouais, tu voulais ajouter un truc, on continue avec...
Oui, en fait, c'était juste pour dire aujourd'hui, en termes de débit, tout ce qu'on a, ça nous va à peu près. Mais tu parlais par exemple des casques d'Apple qui risquent d'arriver dans pas très longtemps. En fait, on a de plus en plus d'outils avec de plus en plus de services qui demandent de plus en plus de connectivité. Et j'ai l'impression que c'est le combat sans fin, en fait. C'est-à-dire qu'on aura toujours besoin de plus de débit et qu'on n'est pas capable de gérer, en fait, aujourd'hui, les conséquences environnementales que ça peut poser pour la planète, pour l'espace, pour etc., quoi.
On pourrait faire tout un sujet là-dessus. Y aurait beaucoup de choses à dire, mais on ne va pas se lancer sur cette question.
T'as ton après-midi, là ?
Oui, je crois que oui. Bon, il y aurait beaucoup de choses. J'ai envie de parler, de dire « mais oui, mais il y a ça ». Bon, allez. Continuons. Il y aurait aussi d'autres choses à mentionner. Google augmente ses prix de 2% pour les pubs pour compenser les taxes numériques. Et dans le même temps, Brave, vous connaissez le navigateur Brave, a acheté Tailcat, qui est un moteur de recherche open source. Et ils vont proposer un moteur de recherche alternative. C'est particulièrement intéressant parce que tous les moteurs de recherche alternatifs aujourd'hui, il y en a plusieurs, hein, mais je crois que la plupart d'entre eux fonctionnent en fait avec une base de moteurs de recherche existants, c'est-à-dire en gros Microsoft ou Google. On va dire ça comme ça. Celui de Brave fonctionnerait sur un index qui serait entièrement indépendant de tout ça à 100%. Et ça va être intéressant de voir où ça les mène. Il y a d'autres sujets que je voulais évoquer aussi. Twitter serait en train d'inclure dans son interface la possibilité d'avoir, comme sur Instagram, des ventes directes dans les tweets, donc d'avoir un produit qui mènerait directement à un achat. On se demande pourquoi ça n'a pas été fait avant, c'est tellement évident, peut-être un peu moins que sur Instagram.
Rajouter à la longue liste des trucs qui devraient exister sur Twitter depuis 5 ans, je ne sais pas.
Un petit peu. Tu sais, Jack Dorsey est bien trop occupé à s'occuper de sa barre. Justement, donc il n'a pas le temps de s'occuper de Twitter.
Et de Square, qui représente quand même plus de 80% de sa fortune,
oui,
enfin de sa fortune potentielle.
Il est plus sur Square que sur Twitter en ce moment.
C'est un problème, parce que Twitter n'est quand même pas une petite épicerie, tu vois, c'est pas un hobby, Twitter. Il y a quand même, ça pose des questions. On parle plus de Twitter que de Square, mais c'est dommage que ce soit moins important pour son patron que son deuxième job.
Autre side job pour Amazon, les magasins sans caissiers et caissières. Il y a une première boutique Amazon qui s'appelle comment ? Amazon Go, je crois. Amazon Fresh, ouais. Qui ouvre en Angleterre. Donc, l'invasion du reste du monde, ils en avaient déjà aux États-Unis. L'invasion du reste du monde commence. Donc, vous savez, hein, c'est des systèmes de caméras.
Pardon, Amazon Go, c'est toi qui avais raison. C'est Amazon Go.
Et il y a Amazon Fresh où ils vendent.
Amazon
les deux,
Fresh,
en fait.
c'est de la livraison.
Non, bah en fait, cette boutique-là s'appelle Amazon
Fresh. Non, Fresh sont les magasins,
Fresh.
Il me semble.
C'est ça. On s'y perd. Attends, c'est
Amazon. Ah oui, alors, t'as raison.
Est-ce que c'est Amazon Now ? Est-ce que c'est Amazon Fresh ? Amazon Go ? Amazon Maintenant ? Amazon STP ?
Amazon Prime Go Fresh.
C'est ça. Donc, en tout cas, ils commencent à ouvrir en dehors des États-Unis. Et donc, ça risque d'arriver un petit peu partout, peut-être, bientôt.
J'ai testé à Seattle et c'est... Ouais, c'est confondant, en fait.
Ouais.
C'est à la fois confondant, et puis une fois que tu as compris vaguement comment ça marche, tu dis « Ah bah ouais, mais là encore, on aurait pu le faire avant. » Alors bon, les technologies n'étaient peut-être pas au niveau, etc. Mais tu as cette impression de partir sans payer, ce qui est toujours très curieux. C'est-à-dire que tu vois, tu rassembles les trucs, tu dis « Je vais prendre ça, le sandwich, le machin, la boisson, nanana. » Alors c'est un inventaire qui est un petit peu limité, c'est pas un hypermarché. Mais voilà, et là on te dit « Allez-y, sortez. »
Mais alors, tu mets juste les trucs dans ton sac et tu sors du magasin.
Ouais. Tu t'en vas et là, tout à coup, l'application se fait... C'est bon, bien sûr, on vous a débité, ça.
Pouh, okay. C'est marrant parce qu'on parlait de politique. Vous savez que dans cette émission, j'hésite pas parfois à parler simplement un petit peu de sujets politiques qui sont intéressants. Mais c'est marrant parce que dans les tweets qui suivaient l'un des tweets sur le sujet, il y a eu un combat de bords politiques différents qui s'est initié. Certains disaient « Ah, mais voilà, on remplace les caissiers ». Et d'autres disaient « Ah, mais voilà, vous voudriez qu'on garde ces métiers aliénants jusqu'à la fin des temps. C'est très bien si on supprime ce genre de métiers pour en faire d'autres ». Et donc, ça lance le débat éternel sur est-ce qu'on remplace les métiers de ce type par d'autres, ou est-ce que c'est simplement renvoyer des gens chez eux sans travail ? Ça, c'est une question qui n'a pas encore vraiment de réponse, mais c'est le genre de question que ça peut poser quand je vous dis que la tech amène forcément à la société, à la politique, à l'économie, à la pub,
oui,
à nos vies et tout.
C'est assez difficile, en fait. C'est qu'on a tous cette idée de se dire regardez la révolution industrielle, on a pu arrêter tous ces jobs hyper répétitifs sans forcément énormément de valeur ajoutée pour le remplacer par des machines, sauf qu'on se rend compte que, enfin, il y a quand même un temps de latence pendant lequel les gens se retrouvent sans emploi, le temps que les formations se fassent, que les reconversions se fassent, et en fait, on est juste en train de se dire, bon, on accepte de sacrifier un certain nombre de personnes qui vont perdre leur emploi, en se disant que, bon, pour le bien-être de la majorité, c'est acceptable. Donc, en fait, dans ces débats-là, c'est souvent les gens qui sont impactés par ce genre de décision. ont rarement leur mot à dire. Ouais. Les gens subissent et ensuite, bon bah tant pis, on les oublie, on passe à autre chose.
Ça, en même temps, c'est un mouvement constant. C'est-à-dire que c'est Schumpeter, la destruction créatrice. Sinon, évidemment, une technologie qui, tout à coup, je sais pas, oblitère, invalide un métier, une compétence, n'est pas celle qui va en même temps créer la nouvelle compétence, le nouveau métier, le truc qui va créer, tu vois, le recyclage des emplois existants. Mais c'est vrai, oui, on l'a vu sur la révolution industrielle. Enfin, l'arrivée de la voiture, de l'arrivée de l'automobile n'a pas donné de meilleurs emplois aux chevaux, tu vois ce que je veux dire?
Non, c'est ça.
Exactement. J'aime bien ta manière de le présenter, oui.
Et pourtant, c'est un truc irrépressible. Et ce qui est intéressant, c'est que ce grand mouvement de l'automatisation qu'on voit aujourd'hui, alors à travers la robotisation, mais aussi le logiciel, tout simplement. Ce qui est en train de changer, c'est que, comme vous le disiez là tous les deux, c'est que avant c'était des choses qui attaquaient, j'ai envie de dire, le bas de l'échelle des emplois, c'est-à-dire les emplois les moins qualifiés, que ce soit dans l'industrie, même on le voit dans le service là. Ce qui est en train de se passer maintenant, c'est qu'on attaque là le milieu de l'arbre des compétences, c'est-à-dire, je sais pas, regarde à New York, chez Goldman Sachs, avant ils avaient un plateau où il y avait 600 traders, et ben maintenant, non, il y avait 2000 traders, je crois, et maintenant, non, ils ont embauché 600 développeurs, il n'y a plus de traders. Maintenant, c'est évidemment, c'est des robots qui passent les ordres, et là, je pense que, tu vois, autant, si tu es ouvrier non qualifié, tu connais cette menace-là, parce qu'elle te souffle dans le cou de manière assez constante, autant les gens qui ont fait, tu vois, des maths et des écoles de commerce et du reste pour devenir trader chez Goldman Sachs, ils ne pensaient pas que leur emploi était fongible, ouais, comme on dit dans les
Ouais, voilà, c'est ça. Je vais dire que le jour, c'est pas qu'on rigole, mais il y a peut-être des gens qui rigolent, mais le jour où l'automatisation viendra pousser les journalistes et les podcasteurs dehors, on rigolera moins. Encore que, on dit ça, mais c'est déjà le cas, hein, le métier de journaliste est beaucoup plus difficile aujourd'hui. Je vois de plus en plus d'articles qui ont en haut de l'article un petit bouton « Lisez cet article ». C'est le cas sur The Verge. Il y a aussi une application que j'utilise pas mal d'ailleurs, une extension à mon navigateur Chrome qui s'appelle Podcastle, qui en fait lit simplement les articles. C'est en anglais uniquement, mais
ça sert pas mal. Lit à haute voix.
Lit à haute voix, oui, pardon. Ça,
ah oui,
ça
d'accord, je ne comprenais pas. Il va sur des sites et là, il y a un bouton qui lui dit « Lis l'article ». Oui, enfin, c'est pour ça que j'étais venu pour ça à la base.
Oui, je veux dire que ça te lit à haute voix, ça te fait une lecture avec une voix artificielle de l'article. Et on n'est pas loin de, je sais pas, un truc qui met plusieurs articles intéressants comme ça ensemble, te crée un podcast, et du coup, moi, j'ai plus de boulot. Bon, Cédric, j'ai changé d'avis. Qu'est-ce que c'est que ces conneries d'Amazon Fresh?
Mais oui,
ça marche pas comme ça.
Ah ouais, on est d'accord.
ce que tu fais, c'est de l'artisanat, c'est autre chose. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est one of a kind. Il y a pas, on peut pas reproduire. Tu vois, tu vas pas remplacer les podcasts que tu écoutes le matin par juste la lecture par une voix aussi réussie soit-elle, parce que maintenant tu as des voix quand même d'enfer, de ce qui est passé dans le journal. Ça c'est pas du tout la même chose.
Écoute.
On avait toujours dit que tout ce qui était artistique ne pourrait jamais être remplacé par des robots. Enfin, aujourd'hui, il faut voir le boulot qui est fait par les. Bah, encore une fois, ceux qui font de l'art génératif et qui bossent avec des algorithmes. Ok, il faut quand même quelqu'un pour créer l'algorithme, mais une fois qu'il est fait, en fait, les œuvres d'art qui sont créées sont créées automatiquement. Donc, je pense qu'aucun d'entre nous n'est protégé.
Mais du coup, c'est marrant parce qu'on revient. Remplacement. On revient à ce qu'on disait au tout début. Est-ce que l'important, finalement, c'est pas juste de savoir? Parce que des œuvres d'art générées par des algorithmes, il va y en avoir des milliers et des dizaines de milliers et des millions et des milliards et peut-être plus encore. Mais en fait, ce qui est important, c'est de savoir quel artiste est derrière, quelle intention il y avait derrière. Et c'est ça, c'est le fait de savoir, simplement. On peut avoir deux œuvres exactement identiques, mais si on sait que l'une d'entre elles a été créée de manière froide et l'autre par un vrai artiste qui a un cœur et un cerveau et une âme, eh ben c'est à celle-là qu'on accordera de l'importance, peut-être. Et c'est l'unicité de l'âme humaine qui compte.
C'est exactement ce qui s'est passé depuis 20 ans avec l'arrivée des diamants artificiels. Mm-hmm. Un diamant, on connaît la structure moléculaire d'un diamant. Un diamant, c'est un diamant. Et bah, y en a
tu
qui
presses
sont
du carbone très très fort, ça te fait du diamant.
C'est ça, avec un gros marteau. Et voilà. Mais maintenant, on arrive à les générer de manière artificielle. Alors pour l'instant, évidemment, ça a posé des très gros débats dans l'industrie des diamantaires, hein, pas au-delà. Mais c'est pas pareil. Oui, mais regarde, ça, c'est exactement la même chose. En fait, même même
ouais,
physiquement.
Mais ça sauve des petits enfants dans des mines.
Par exemple, par exemple. Et puis ça retire sa valeur à un marché qui a été créé sur une fausse pénurie. Enfin,
il y a plein de choses
artificielles.
Ouais, c'est ça. Oui, mais en même temps, c'est vrai que le ce qu'on investit, je parle pas d'argent dans un diamant, c'est voilà, c'est un truc unique qu'on est allé chercher au centre de la Terre. Enfin, tu vois, alors que là, c'est
non, intention, là, quoi. C'est ce que je disais.
Ça sort d'une imprimante 3D, mais toi, ça au doigt, Géré.
C'est ça, c'est le diamant représente le sacrifice financier, souvent, qui représente lui-même l'intention, la force des sentiments. Ça veut dire quelque chose, ça a un poids qui n'est pas juste le poids physique, ça a une signification.
Voilà. Et c'est ça la différence entre une voix numérique qui te lit le Google News du jour et Patrick qui susurre au creux de ton oreille. C'est ça la différence.
La conclusion de tout ça, c'est patreon.com/rdvtech. Merci de financer le vrai travail des humains. On va entrer dans un monde de science-fiction où il faudra expliquer que les humains ont besoin de manger, pas les algorithmes. Donc, financer le travail des humains, de Human, Human Liberation Front, quelque chose comme ça. Bon, écoutez, on va pas passer plus de temps sur Microsoft Mesh que de simplement dire que c'est une infrastructure qui va nous permettre d'avoir une présence virtuelle plus facilement. En gros, c'est tout ce qui est meeting avec avatar par réalité augmentée, réalité mixée. Eh bien, Microsoft est en train de préparer ça avec son Microsoft Mesh, dont ils ont fait une démo un petit peu rigolote. Vous savez quoi ? Je vous mettrai dans la newsletter le lien vers l'article, comme ça vous pourrez voir par vous-même. Et je mettrai aussi le lien vers un article absolument passionnant d'un site qui s'appelle restoftheworld.org, que je consulte de plus en plus dans ma veille, qui est un site qui suit l'actu tech dans tout ce qui n'est pas l'Occident, en fait, et qui détaille dans cet article-là la manière dont Line, l'application de messagerie directe la plus populaire en Asie, a mis en place son programme de fact-checking qui est vraiment, vraiment intéressant, qui protège la vie privée et le chiffrement de ses communications en mettant sur les utilisateurs le rôle de, non pas de fact-checker, mais de demander un fact-check sur une information qui leur paraît un petit peu suspecte. Et ils expliquent dans l'article comment ça fonctionne techniquement, mais en gros, quand on voit un truc dont on n'est pas sûr, on peut demander au service de Line ça, est-ce que c'est vrai ou pas ? Et ils vous envoient une réponse. Et il y a tout un élément, toute une série d'éléments intéressants derrière. Alors évidemment, ce n'est pas la solution ultime, mais c'est surtout pour la manière dont ça gère le fact-checking dans un environnement entièrement protecteur de la vie privée, c'est-à-dire un environnement end-to-end encrypted. Et c'est une solution qui est très intéressante que je vous encourage à lire. Ça sera dans la newsletter à laquelle vous pouvez vous abonner sur notepatrick.com et qui est gratuite. Par contre, les Patriotes ont une version étendue de la newsletter. Donc, vous voyez, c'est vraiment ce modèle. Tout est gratuit et vous pouvez avoir un petit peu plus si vous le souhaitez. Bah écoutez, je pense que ça fait un bon petit programme pour ce rendez-vous tech. Merci à tous les deux de nous avoir suivis. Est-ce que vous pourriez me dire où on peut vous retrouver si on en veut un petit peu plus ? On va commencer par Awa peut-être, où on peut te retrouver sur Internet ?
Plutôt sur Twitter, où je passe mes journées à un peu shitposter. Donc Technically Awa sur Twitter. Venez me voir et venez voir les projets cool sur lesquels je bosse.
Technically Awa, on aura le lien bien sûr dans les notes de l'émission. Cédric, @Cédric, où te retrouve-t-on ?
@Cédric sur Twitter, où je passe ma journée à pas shitposter parce que j'essaie de travailler.
multitasking, ça passe.
Oui, avec l'expérience, vous le verrez. Ça marche pas bien le multitasking. Non, honnêtement, quand j'ai envie de travailler, il faut que je ferme Twitter.
C'est l'âge, ça, Cédric. C'est pas l'expérience, c'est l'âge.
Je sais pas si c'est mon grand âge ou si c'est le fait que j'ai un problème sur, tu vois, someone is wrong on the internet.
Ah oui, ça c'est possible aussi.
Mais non, c'est pas vrai ce que vous dites. Et là, tu parles part dans, tu vois, tu peux pas fact-checker chaque tweet qui passe sur ton flux, c'est pas possible. Donc bon, bref. Donc 4 Cédric sur Twitter, et puis sinon, si le sujet de la voiture électrique vous intéresse, je vous recommande chaudement, évidemment, Les Doigts dans la Prise, sur votre plateforme de podcast préférée. Un podcast à la périodicité, comment dire, ça devrait être toutes les deux semaines, et on a du mal à le tenir, mais c'est parce qu'on est très occupé, mais c'est rigolo. Là, c'est, dans le dernier numéro, on a fait notre premier essai, un truc à l'ancienne avec des micros dans la voiture où on se raconte. Enfin, vous verrez, c'est rigolo. Allez l'écouter.
Très bien, très bien. Les Doigts dans la Prise et @Cédric sur Twitter. Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter, Facebook et Instagram. Vous pouvez aussi trouver, bien sûr, tous les liens vers tout ce que je fais sur notepatrick.com avec un super site où, franchement, il faut aller le voir, ce site. On a passé des heures et des heures de travail dessus avec Kevin. Et vous avez tous les podcasts qui sont présentés avec les liens directs vers les applications de podcast où vous pouvez les écouter. Bon, évidemment, vous avez déjà les podcasts dans votre app de podcast, donc vous n'avez pas forcément besoin de ça, mais c'est super malin, ça marche très très bien. Vous avez aussi les liens vers le Patreon de l'émission, bien sûr, si vous voulez soutenir l'émission, comme je vous en parlais tout à l'heure, sur patreon.com/rdvtech. C'est hyper simple, le lien est même directement dans les notes de l'émission. Et vous avez aussi sur notepatrick.com le lien pour s'inscrire à la newsletter. Et comme ça, vous recevez tous les vendredis matin la newsletter avec toutes les infos que j'ai retenues pendant ma veille. Et vous aurez notamment cet article de restoftheworld.org qui est vraiment formidable. Je vous remercie tous de nous avoir suivis et je vous donne rendez-vous dans une petite semaine pour un nouvel épisode. Je vous fais de grosses bises et à très très vite. Ciao, ciao.